This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en avril 2009 et c'est l'épisode numéro 7, Vidéo Virale Commando. Bonjour à tous, je suis Patrick Béja et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle de l'actualité technologie, internet et gadgets. Et aujourd'hui, on va vous parler de webcam sur Google, de vidéos virales qui ruinent des sociétés, du fait de se faire jeter de son appart par Facebook interposé, de The Pirate Bay, de la loi Adopi et de Twitter, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas faire une émission sans ça. Mais avant de nous lancer dans le programme, je voudrais saluer mes invités qui sont cette semaine Corben, que vous connaissez bien puisqu'elle était, il était déjà venu dans l'émission. Tu vas bien, Corben?
Ouais, ça va, très bien, je te vois là, ça y est, j'ai branché la caméra.
Ça y est, t'as lancé le chat.
Ouais.
Ça fait un mois et demi qu'on t'a pas vu, donc j'espère que tout s'est bien passé. J'ai vu que tu auras certainement beaucoup de choses à dire sur Adopi.
ouais, quelques petites choses. Ouais.
Bon, j'attends ça avec impatience. Et notre autre invité aujourd'hui, c'est Eric, le célébrissime blogueur de Presse Citron. Comment vas-tu, Eric?
Salut Patrick, ça va?
Comment vas-tu, Eric?
Ça va. Salut Patrick,
là,
ça va.
Alors, ce qui se passe là, c'est que tu as dû mettre le son de la chatroom, donc on a un petit retour.
Ça y est, je l'ai.
Ok. Ça arrive, je connais ça. Oui, donc tu vas bien. Tu faisais un podcast, toi aussi, qui était un petit peu le grand-père des podcasts de technologie en français, qui était Parole de Blog, mais tu l'as arrêté récemment, et ce qui a attristé toute la communauté, bien sûr. Mais j'espère que, comme ça te donne l'occasion de parler aux fans de technologie en passant par chez nous, ça nous fait plaisir.
Oui, non, c'est vrai que c'est sympa. Moi, je l'ai arrêté parce qu'effectivement, je l'ai expliqué, ça me prenait trop de temps et je voulais un petit peu me focaliser sur d'autres choses. Et puis, mais c'est toujours sympa de parler dans le micro et de parler de technologie dans un contexte qui est probablement un petit peu plus préparé et en tout cas par l'animateur un peu plus professionnel que n'était Parole de Blog.
Bah, ça reviendra. Non, mais pourquoi tu dis ça? C'était très pro Parole de Blog, enfin. Moi, j'aimais bien. Pardon, excuse-moi, vas-y.
Non, je disais c'est gentil.
Bon, ok. Bon, bah, en tout cas, tu es là et ça nous fait très plaisir. Et tu n'es pas le seul à être là, c'est puisque nous avons aussi la chatroom, comme d'habitude, où on me dit, tu vois, il y a des YouStreamers qui disent c'était bien Parole de Blog avec une petite larme. Et la chatroom dit bonjour également, donc merci à vous d'être ici, comme à chaque fois on est en live, avec une petite chatroom et surtout ma tête dans la télé, enfin pas dans la télé, mais dans l'ordinateur, donc, et ma webcam est toujours de qualité un petit peu pourrie, donc j'ai l'air terriblement pâle, on a l'impression que je sors d'un cercueil, mais c'est pas de ma faute, c'est la caméra qui est comme ça. Enfin bref, bon allez, trêve de plaisanterie, on va se lancer immédiatement dans l'actualité technologique de ces deux dernières semaines. Et le sujet dont tout le monde parle évidemment, c'est le procès de The Pirate Bay qui s'est terminé il y a quelques jours à peine. Et je me suis dit qu'on allait commencer avec un sujet un petit peu plus léger que ça, pour pas se lancer directement dans les trucs qui énervent. Parce que je sais que donc vous deux, vous êtes peut-être un petit peu énervés par ces histoires, avec raison. Et la première chose dont on va parler, c'est cette histoire de sexting. Alors, est-ce que vous avez entendu parler de ça, les gars, aux États-Unis, les jeunes qui sextent? Vous savez ce que c'est?
Qui font du sexe par SMS, c'est ça?
Non. Non, mais en fait, c'est bon, j'en rigole, mais c'est presque plus grave que ça. L'idée, en fait, c'est qu'il y a des gens qui envoient des photos d'eux-mêmes à des amis, des photos, bon, un petit peu chaudes, osées, à des amis ou à des petits amis. Genre une nana qui envoie une photo d'elle, bon, on va le dire, une photo d'elle à moitié à poil à son copain. Le problème, c'est que selon la loi, c'est considéré comme de la diffusion de pédophilie. Et il y a une fille aux États-Unis qui a été condamnée comme ce qui s'appelle sex offender, et parce qu'elle avait envoyé une photo d'elle à son mec, et elle avait moins de 18 ans, donc c'était de la pédophilie. Elle a été condamnée et elle est maintenant au registre des pédophiles, et c'est avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire casier judiciaire, obligation de se signaler quand elle déménage quelque part, etc., etc. Donc ça, c'était une sorte de... Bah, pardon, vas-y.
Je dis oui, j'ai entendu ça, c'est du grand n'importe quoi quand même.
Bah, c'est incroyable, hein. Mais bon, ce qui est relativement encourageant, par contre, c'est que la loi est en train d'être modifiée un petit peu dans tous les États pour ne pas inclure ces choses-là. Donc là, ils sont en train de s'adapter très très vite, donc c'est plutôt bon signe, quoi. C'est un sujet sur lequel on va pas passer deux heures, mais je voulais le signaler parce que c'est à la fois marrant et triste, quoi. Enfin, je sais pas, t'imagines.
Oh, c'est les lois américaines, hein. Il y en a beaucoup des comme ça.
Ouais, mais ça, c'est le. On tombe toujours sur ce même truc de puritanisme américain à la con. Enfin, si je peux me permettre.
Vas-y.
En tout cas, vu de notre œil, de notre fenêtre européenne, où on est certainement là-dessus sur ces histoires de sexe un petit peu plus libéré. Et là, j'ai du mal à comprendre. J'avais lu des choses là-dessus. Cette jeune fille, elle était. Pourquoi elle est condamnée pour pédophilie, c'est-à-dire qu'elle était majeure et elle a envoyé des photos d'elle à poil à son petit ami qui est mineur.
Non, c'était elle qui était mineure. Et le problème, c'est que la loi à la base est faite pour condamner les échanges électroniques de fichiers pornographiques avec concernant des personnes mineures. Et oui. Le problème, c'est que même si c'est elle-même qui l'envoie, selon la lettre de la loi, mais pas l'esprit, selon la lettre de la loi, elle tombait sous le coup de la loi, quoi. Elle envoyait des fichiers d'une personne mineure. Tu vois.
D'accord. D'une personne mineure à un mineur, oui, d'accord.
Voilà.
Oui, c'est très bizarre, c'est cette relation qu'ont les Américains ou les Anglo-Saxons avec le sexe, et c'est assez affligeant comme histoire. J'espère qu'elle a quand même pas qu'elle va quand même pas aller en prison, en tout cas, et que son casier sera rapidement blanchi, parce que c'est quand même enfin bon, là aussi
oh, mais sinon, là on nage dans n'importe quoi, c'est clair.
Ouais. Si nous on retarde sur certains aspects, notamment avec Adopi, eux ils retardent sur l'échange et enfin sur Internet, quoi. Enfin, je trouve ça.
Là, il faut quand même être tout à fait exact. Ils ont réagi assez vite sur ce point précis et ils sont en train de sortir ce type d'offense. Je fais un anglicisme. Ce type de choses de la loi. Donc là, ils se rendent bien compte que c'est pas cohérent et ils sont en train de sortir ce cas précis de la loi. Mais bon, il faut le temps que les choses soient votées, mais c'est déjà en cours.
Oui, mais que ça soit la même chose dans tous les États, parce que dans les États, enfin chaque État américain a sa réglementation coercitive sur les relations sexuelles, hein. C'est-à-dire que c'est complètement pittoresque, hein. Il y a des choses complètement hallucinantes selon les États, c'est même à mourir de rien.
Ouais, donc, il y a une liste de lois quelque part sur le net, une liste des lois ridicules qui ont été votées. Des trucs du genre, vous n'avez pas le droit de manger un sandwich quand vous êtes sur le bord de la route à tel endroit. Enfin, c'est des trucs, bah, je dis n'importe quoi, mais... vous savez qui d'autre va devoir tomber sous le coup de la loi ? C'est l'iBorg Rob Spencer, dont lui, par contre, je suis sûr que vous avez entendu parler, non ?
Oui.
Ah bah peut-être que
ce Canadien qui s'est fait remplacer un œil, enfin qui a perdu un œil à la chasse et dans un accident de chasse, je crois, ça lui apprendra à chasser et qui est en train de faire remplacer son œil par un œil bionique, c'est ça?
Exactement, ouais. Et donc il y a une vidéo qui est sortie à ce sujet que je mettrai en lien dans les notes de l'émission, où il explique un petit peu comment ça fonctionne, qui est assez intéressante. En fait, il a un œil de verre, hein, en temps normal, et il a un ami qui était donc son ami qui s'appelle Costa Grammatis, qui est un scientifique qui travaillait pour la NASA ou un truc du genre, qui lui a bricolé, en fait, un globe dans lequel il a inclus, un globe oculaire dans lequel il a inclus une caméra et un truc de transmission sans fil, et une, bien sûr, une petite LED rouge pour faire vraiment ouais. Terminator. Tu l'as vu, Corben?
J'ai vu les photos. Ça va pas être simple, hein, pour lui draguer les filles avec cette super lumière qui t'arrive droit dans la tronche quand tu lui parles. Mais je savais pas pour la caméra, en fait. Je pensais qu'il y avait.
Je croyais que l'œil rouge était un montage pour faire genre, quoi. Mais je pensais pas que c'était. Ah oui, d'accord.
Non, c'est vraiment.
Il va ressembler à Terminator.
Voilà, ouais. Et c'est marrant dans la vidéo, justement, parce qu'il joue de cette histoire de Terminator. Il a beaucoup d'humour, le gars. Et c'est un
réalisateur, en fait, il va faire un film dans lequel il va intégrer des images de...
Ah, je t'entends plus, Patrick.
T'as débranché ton micro.
Ton micro qui a pété, là.
Là, on m'entend?
Ah, c'est
ouais.
Bon.
Ouais, excusez-moi, c'est mon micro qui fait des siennes. Donc, je disais, c'est un réalisateur, Rob Spencer, et il va faire un film avec dans lequel il va intégrer les images de cette caméra qu'il a dans l'œil, quoi. Ça va être marrant.
Donc, la caméra, c'est une sorte de caméra embarquée, c'est une caméra subjective qui filme ce qu'il voit, en fait. Ça, hein.
Exactement.
C'est pas un œil bionique, comme je l'ai dit au départ, qui va lui permettre de recouvrer la vue sur cet œil-là. C'est complètement autre chose, en fait.
Non, bah, l'œil n'est pas, enfin, la caméra n'est pas connectée au cerveau, en fait.
Mais
donc il peut pas, ça lui permet pas de voir. Mais ce genre de choses existe aussi, hein. On a déjà vu ces choses-là quelque part. Mais lui, c'est simplement que ça permet d'enregistrer les images, mais dans son œil, quoi.
Il va pouvoir faire un remake de Justin TV de façon beaucoup plus discrète.
Ça lui changera des soirées diapo, quoi.
Ouais.
Il pourra se faire le film intégral à la fin de sa vie, tu vois.
Voilà, exactement, ouais. Le film de la vie de Rob Spencer. Mais en fait, c'est là qu'on va se rendre compte que ce genre d'histoires qui sont hyper, hyper excitantes et romantiques dans les films, au final, c'est super chiant, quoi. Parce que tu le vois en train de manger ses pâtes, il va aux toilettes, il travaille pendant deux heures.
Mais là, sur le chat, il y a Darky Ben qui parle d'un film que j'ai vu aussi qui s'appelle The Final Cut. Et c'était un peu ça, en fait. C'est en gros, le mec plonge dans tes souvenirs et à la fin, il te fait un méga DVD avec tous les plus beaux moments. Et quand tu meurs, il te passe ça à l'enterrement, quoi.
Ah, sympa. Ouais. Moi, je me dis que ça serait peut-être intéressant de faire ça pour tout le monde, en fait. Il faudrait qu'on ait tous... Enfin bon, le problème, c'est qu'il faut qu'on perde un œil. Donc, c'est pas forcément hyper sympa à la base. Mais ensuite, tu vois... Bon, c'est une petite contrainte. Mais après, le film de ta vie, pour le coup, c'est même plus la peine de prendre des photos.
Enfin, on peut le mettre ailleurs, hein, la caméra. On peut la mettre au milieu du front. Ça fait un petit peu comme...
Voilà. Effectivement, un troisième œil intégré au milieu du front, ça serait une bonne idée. Et ça permettrait à certaines personnes de nous surveiller... Bon, je déteste faire ce genre de raccourci facile, hein, 1984, mais il n'empêche qu'avec ce qui s'est passé avec le procès de The Pirate Bay, on peut facilement faire ce genre de transition, puisque on vous en parlait évidemment, et le monde entier en a parlé, ces dernières semaines. The Pirate Bay, qui est ce site de référencement de fichiers torrent, a été condamné finalement par la justice suédoise. Ils ont été jugés coupables à un an de prison, et a réglé 3,6 millions de dollars d'amende. En fait, je ne sais pas si c'est des amendes ou des dommages et intérêts, mais dans tous les cas, ils sont censés sortir cette somme-là. Alors, ce qui était intéressant, sans se relancer sur la question de qui a raison et qui a tort dans cette histoire, parce qu'on en a déjà largement parlé, je crois que ce qui était intéressant, c'était la manière dont ils ont traiter l'après-procès. C'est-à-dire qu'ils ont fait, là où une organisation classique aurait fait une conférence de presse avec toute la presse mondiale, ou en tout cas la presse suédoise, dans un lieu officiel et les journalistes qui viennent les voir, les gens de The Pirate Bay ont fait une conférence de presse virtuelle par Internet, qui était streamée en live, un petit peu comme ce qu'on fait aujourd'hui ici. Et est-ce que vous l'avez vu la conférence? Vous avez peut-être pas eu l'occasion, mais
je l'ai pas vu en live, mais j'ai vu les morceaux enregistrés. Ouais, j'ai regardé un peu.
D'accord. Qu'est-ce que vous en avez pensé en fait?
Bah moi, je pense que, enfin, je te laisserai la parole, Manu, parce que tu connais mieux ce genre de questions. Mais je pense que ils ont pris cher. J'aurais jamais pensé qu'ils prennent de la prison ferme, surtout avec la justice suédoise. Je sais pas pourquoi, mais disons que j'avais un a priori plutôt, favorable, c'est pas le mot, mais un a priori de clémence, en tout cas.
Bah, ils sont connus pour leur clémence, effectivement, dans ce genre de cas. Hein. C'est le pays de la liberté informatique.
Complètement. Et alors, puis en plus, c'est un des plus importants au monde. Donc, ils ont pris cher, et je pense que il y a eu effectivement des pressions importantes derrière de l'industrie de l'entertainment en général. Je ne sais pas exactement tous les détails, mais il y a certainement dû y avoir des pressions.
Il y a eu de la pression de la part des États-Unis aussi. Il y a pas mal de pression.
Les États-Unis étaient les plaintifs, les plaignants. Donc, il est évident que. Mais vous avez entendu ce rebondissement extraordinaire propos du juge.
Ouais.
Pour finir, et je vous laisse la parole parce que vous connaissez le sujet mieux que moi. Moi, je pense qu'ils ont payé le prix de la provoque. C'est-à-dire qu'ils s'en sont quand même payé une bonne tranche depuis quelques années. Et ils ont dû. Je pense qu'on les a un petit peu remis à leur place. La prison ferme, je trouve que c'est un peu dur quand même.
Justement, Corben va sans doute parler de cette histoire du juge qui explique un petit peu la sévérité du jugement qui a été prononcé.
Oui, enfin, je sais pas si ça explique, mais oui, quelques jours ou quelques heures, j'en sais rien, après le verdict, je sais même pas qui a soulevé le truc, mais je crois que c'était l'avocat de The Pirate Bay. Qui a fait ressortir qu'en gros le juge avait carrément était membre de deux associations de défense des ayants droit. Donc je connais pas les noms, hein, c'est des trucs
c'est des trucs
suédois écrits avec des petits ronds, tu sais, sur les au-dessus des lettres. Mais bon, voilà quoi. Et donc du coup maintenant ça remet en cause complètement tout le procès, et parce que le juge, enfin, forcément était pas impartial. On se demande si ça va pas être annulé, et si ça va pas recommencer de zéro. Quoi.
Mais c'est ça qui est incroyable en fait, c'est que le juge n'a pas jugé bon, justement. C'est marrant, n'a pas jugé bon de déclarer un conflit d'intérêts, quoi. Et il dit non, moi je peux rester complètement objectif, alors qu'il est effectivement membre d'organisations qui sont très proches des groupes des ayants droit et des gens qui étaient les plaintifs dans le procès.
C'est un peu comme si tu avais un juge qui était pédophile, qui jugeait un mec qui était accusé de pédophilie, quoi. En gros, si je prends les cas vachement extrêmes, tu vois. Tu vois, mais bon, ça quoi.
Ouais, effectivement, l'exemple est extrême, mais c'est vrai que c'est exactement ça, quoi. C'est, il est juge et parti à la fois. On me signale dans la.
Oui, pardon.
Juste pour dire qu'on me signale dans la chatroom que j'ai oublié la boîte à bruit. Et effectivement, je l'ai oublié, donc je vais la ressortir maintenant et je vais vous lancer un petit truc tout de suite pour. Pour Pirate Bay, on dit tous.
C'est excellent, ça.
Voilà, donc elle est revenue. Oui, et donc bref, cette histoire est invraisemblable. Et déjà, à la base, on ne pensait pas que le jugement, qui était jugé comme trop sévère par énormément de gens, tiendrait en appel, parce qu'ils avaient annoncé qu'ils feraient appel. Et là, ça leur offre un appel, et même sans doute, enfin peut-être, on ne va pas s'emporter, mais peut-être une annulation du procès sur un plateau d'argent. Parce que
franchement... Un truc comme ça, c'est tellement énorme. Je me demande si les mecs de The Pirate Bay, les avocats, n'étaient pas au courant déjà depuis des plombes et qu'ils ont gardé ça en joker secret en attendant le verdict pour sortir la petite carte à la fin et dire le juge était corrompu, le juge machin, etc.
C'est pas impossible. Ouais, Eric.
Ouais, je disais ça. Il faut bien connaître les dessous exactement de l'histoire, parce que pour l'instant, le juge. Alors déjà, combien je connais pas exactement, mais combien il y a de juges? Est-ce que c'est le seul? Est-ce que c'est lui qui a?
Il est seul, ouais.
Alors c'est lui qui a prononcé le verdict. Et après, ça. Alors effectivement, ça pose clairement un problème de de conflit d'intérêts et ça pose un problème éthique. Après, est-ce que ça pose, au regard de la loi suédoise, un problème juridique de nature à faire annuler le procès ? On ne sait pas ça en fait.
Bah, ce qui est certain, c'est que ça donne une base pour faire appel. Déjà qu'il y avait des bases pour faire appel, là c'est une base en or. Mais bon, ensuite, est-ce que le procès en appel sera favorable à The Pirate Bay ? On ne sait pas. Mais bon, la suite plus tard sur cette histoire, mais ce qui est clair, c'est que c'est pas terminé. Et la conférence de presse en ligne, juste moi ce que je voulais en dire, c'est que c'était encore un pied de nez à l'établissement traditionnel, parce qu'ils disaient, ils étaient assis dans leur canapé, il y avait donc une fille et l'un des types de The Pirate Bay, dont je vais même pas essayer de prononcer le nom, et ils faisaient une véritable conférence de presse. Enfin, c'était simplement eux qui étaient assis et qui répondaient à des questions, mais c'était encore une manière très innovante et originale de faire les choses. Et ça allait à l'encontre de ce qui se fait généralement. Et pour moi, même cette manière de faire les choses qui était complètement en marge du procès et de ce qu'ils font, de la raison pour laquelle ils sont jugés, donc cet élément était encore une manière de montrer que le monde était en train de changer et qu'il y avait des gens qui étaient d'un côté du changement et d'autres personnes qui étaient de l'autre. Bref, c'était une preuve supplémentaire. Et pour conclure ce petit sujet sur The Pirate Bay, je voulais juste signaler qu'il y a un site qui a été créé en 2 secondes 30, qui est là pour prouver un petit peu un certain concept, qui s'appelle Pirate Google. Je crois que c'est thepirategoogle.com. Et ce que c'est, en fait, c'est simplement une recherche sur Google avec le terme qui spécifie qu'on va retourner comme résultat uniquement les types de fichiers en .torrent. Donc les fichiers BitTorrent. Et l'idée en fait de ce site, c'est de prouver que même Google fait à peu près la même chose que The Pirate Bay, c'est-à-dire qu'ils indexent des résultats de recherche sur Internet et que parmi ces résultats, il y a des fichiers illégaux et des fichiers appartenant à des ayants droit, et que donc Google est aussi coupable que The Pirate Bay au terme de la loi stricte. Et donc voilà, est-ce que maintenant il faut que les ayants droit se lancent dans une croisade contre Google ou bref, la conclusion
il pourrait demander à Google de désindexer tous les torrents qui sont indexés dans le moteur de recherche, hein, comme voilà,
il pourrait le demander effectivement, mais à ce moment la question devient véritablement du filtrage d'informations.
Ah, voilà.
et c'est beaucoup beaucoup plus grave que uniquement, parce que bon, on se relance pas dans le débat, il y a aussi des torrents légaux et utiles, ce qui est avéré. Mais le fait de demander à Google de filtrer Internet, du coup, c'est tout un autre problème, quoi.
Bah, disons que Google, je crois, a déjà eu affaire à la justice, notamment à la justice pour des histoires aussi d'ayant droit. Pardon ?
Non, je disais, on t'a perdu pendant 2 secondes, mais t'es revenu.
Non, avec la justice belge, je sais plus exactement c'est pour quel sujet, mais c'était un sujet un petit peu similaire d'indexation de contenu qui était considéré comme portant atteinte à des ayants droit. Après, il y a les problèmes de filtrage partout, notamment, c'est Google aussi qui, enfin, tu disais, Patrick, que ça pose effectivement un problème de filtrage de contenu, mais sur certains pays et en fonction de certaines demandes, ils le font, hein, je crois qu'en Chine.
Ouais, c'est exactement le problème. Tu dis.
Voilà, là, si vous voulez une nouveauté, là, par exemple, pas trop loin de chez nous, là, en Allemagne, les quelques fournisseurs d'accès, un bon paquet des fournisseurs d'accès, les majoritaires, quoi, ceux qui font à peu près 75% des connexions allemandes, vont censurer par exemple le site d'hébergement RapidShare. Voilà. Donc ça commence.
Qui est un site d'hébergement qui est complètement légal. Je veux dire, on met des fichiers. Si par exemple j'ai envie de partager mes fichiers la collection de mes photos de vacances avec ma famille, si j'ai pas de site internet où les héberger, bah, je peux les mettre sur RapidShare et ils peuvent les télécharger facilement. Ça n'a rien de pirate.
Ouais,
c'est vrai que si on va par là, de toute façon, ça repose toujours le même problème auquel moi, sans revenir sur mon cas personnel, j'ai été confronté. C'est le problème du statut d'hébergeur et qu'est-ce qu'on met dedans et du partage des contenus fournis par les utilisateurs. C'est la question se pose encore entièrement et pleinement avec YouTube, qui régulièrement censure, je sais pas si le terme est exact, mais en tout cas filtre des contenus pour éviter d'avoir des problèmes avec les ayants droit, notamment avec des vidéoclips, en supprimant les musiques, etc. Parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait des sites qui extrayaient les bandes son des musiques et qui faisaient des listings de MP3 en streaming. Enfin, ça pose tout un tas de problèmes. Dailymotion est très vigilant là-dessus. Hein. Je sais pas si vous avez certainement tous bien eu sûr l'occasion un jour ou l'autre d'avoir une vidéo que vous avez mis sur votre site ou sur votre blog et puis de retrouver quelques jours après un joli carré noir avec ce document n'est plus disponible. Moi-même j'ai été à un concert un jour où c'est un festival à Londres où j'ai filmé des musiciens avec mon pauvre téléphone mobile pour faire des vidéos, pour faire un petit reportage, montrer un petit peu ce que j'avais vu. Je les ai téléchargés sur Dailymotion, je les ai publiés sur Presse Citron et trois jours après j'avais des mails qui me disaient attention, t'as vu tes vidéos, il y a plus rien, c'est un carré noir. Effectivement, pour des vidéos que j'avais fait moi-même, hein, puis qui étaient de très mauvaise qualité.
Bah, ce qui est terrible, en fait, dans cette histoire, c'est que les gens ne sont pas en train... Moi, je suis arrivé à cette conclusion, je ne sais plus si j'en avais parlé la semaine dernière, mais je le répète depuis quelques semaines, je suis arrivé à la conclusion, finalement, que quoi qu'il arrive et quoi qu'on veuille faire, aujourd'hui, la musique est gratuite. Je veux dire, ce n'est pas une question de choix ou de discussion ou de justice ou du fait d'être juste ou pas. La musique est gratuite, dans les faits. Donc le seul moyen d'obtenir de l'argent, c'est pas de forcer les gens à t'en donner, c'est de faire en sorte que les gens aient envie de t'en donner. Parce que quoi qu'il arrive, s'ils veulent télécharger un album, ils pourront. Adopi, pas Adopi, restriction, pas restriction, filtrage, pas filtrage. Les gens pourront le télécharger et l'écouter. Donc il tient ensuite à l'industrie d'évoluer, de changer, comme elle a déjà dû le faire de nombreuses fois auparavant. Et de trouver des moyens de générer des revenus, des flux de revenus avec de nouvelles méthodes et de nouvelles possibilités. Et il n'y a qu'en faisant ça qu'ils y arriveront. C'est pas en se battant contre la marée qu'ils vont réussir à arrêter la marée. C'est pas possible.
Bien sûr. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il faudrait regarder un petit peu dans l'histoire de l'économie, mais cette incapacité des industries de l'entertainment, j'utilise ce mot parce que j'en trouve pas d'autres, mais qui parce que j'englobe volontairement le disque, la vidéo, etc., mais plus particulièrement le disque, cette incapacité à s'adapter comme ça est un petit peu unique. Enfin, il y a certainement des métiers, évidemment il y a des métiers dans l'histoire de l'économie qui ne sont plus utiles et qui ont disparu, il y en a beaucoup, et maintenant à eux de voir s'ils veulent faire partie de ces métiers qui ont disparu et rejoindre le cimetière de l'économie, de l'histoire de l'économie, ou s'ils veulent s'adapter comme de nombreuses industries l'ont fait avant. Donc,
tu parles de cimetière de l'économie et d'industrie qui disparaît, mais en plus, ils n'ont jamais gagné autant d'argent, ils n'ont jamais autant produit, ils n'ont jamais, même les artistes n'ont jamais vendu autant de CD. Enfin, voilà, il y a plein de chiffres qui montrent ça et ça, personne le dit. Et enfin, voilà, t'as l'impression que
c'est le paradoxe.
Ouais, c'est assez le paradoxe.
Il y a un vrai paradoxe, et puis c'est vrai que là-dessus il y a une grosse désinformation, parce que quand tu regardes des émissions de trophées de type Victoire de la musique, etc., c'est vraiment tout le monde s'auto-congratule, tout le monde se félicite de la réussite de tel artiste, il a vendu tant de centaines de milliers de disques, etc. Donc on se dit, mais alors finalement, il continue à vendre des disques, donc il continue à s'en mettre plein les poches.
Je crois que l'industrie du disque est à moins de succès aujourd'hui qu'il y a quelques temps. Hein. Sur les quelques dernières années, les chiffres de vente ont été réduits, mais là où on l'impute au piratage, moi je vais l'imputer à d'autres choses comme justement l'arrivée d'Internet, non pas comme outil de piratage, mais comme outil de distraction. Les jeux vidéo qui se sont démocratisés très largement. Enfin, bon, bref, écoutez, je ne veux pas refaire toute la... Tout le débat qu'on a tous ensemble, parce que ça nous touche beaucoup hein, depuis des semaines, mais on va très rapidement passer sur la question de l'amendement 46 que le Parlement européen a voté, qui va à l'encontre d'Adopi et qui précise justement que toute restreinte d'accès à Internet requiert une décision juridique. Et évidemment, Adopi ne fonctionne sans décision juridique, ce qui fait que normalement, selon la loi européenne, Adopi devrait être inapplicable. Et J'en profite pour passer la parole à Corben, qui était à la manifestation anti-Adopi de ce samedi, donc il y a deux jours, samedi 25, qui peut nous faire un petit compte-rendu de la manière dont ça s'est passé, peut-être ?
Bah écoute, c'était... Il est censé avoir, d'après le site, 1500 personnes à Paris. On était entre, à vue de nez, je dirais entre, allez, on va dire 350, 400, peut-être 500. Il y en a qui parlent de 700 personnes. Enfin bon, mais il y a eu un roulement, si tu veux. Les gens sont venus, sont repartis. Enfin voilà. Donc il y avait, enfin moi j'ai trouvé que, bon, même s'il n'y avait pas 1500 personnes, il y avait quand même du monde. Enfin. Je suis pas un habitué des manifestations, hein. J'ai pas de carte à la CGT ou chez Force Ouvrier, c'est quoi. Mais j'ai trouvé quand même que c'était un début, quoi. C'était un bon début.
Mais tu crois que ça aura servi à quelque chose ?
Bah ça, c'est difficile à dire. La manifestation en elle-même, on va dire, c'était plutôt un bon moyen de rencontrer des gens et de mettre en place des choses pour la suite. Mais surtout, enfin là maintenant, en fait, ce qu'il faut, c'est informer le grand public, parce que là, ça concerne que les technophiles. T'as que les gens qui sont dans Internet, qui s'intéressent un peu à l'actualité d'Internet, qui se sentent concernés par ça. La grande majorité de la population, celle qui utilise Internet comme je sais pas, un Minitel Rose ou un moyen d'aller consulter le tiercé, rapidement, mais qui passe sa journée devant la télé. Celle-là, elle est pas du tout au courant des risques, non pas de, on va dire, d'assécher les artistes et de tuer la création culturelle, mais plutôt des risques de voir, bah, justement, sa liberté de pouvoir aller sur n'importe quel site, sa liberté de pouvoir s'exprimer, ouvrir un blog et raconter ce qu'on veut, sa liberté de, je sais pas, de pouvoir avoir, on va dire, son jardin privé, son jardin secret sur son ordinateur sans qu'il y ait un mouchard qui t'espionne en permanence. Et ça, les gens savent pas ça. Les gens s'imaginent que oui, bah ok, c'est vrai, Sardou il perd des sous, bon bah écoute, c'est normal, il faut punir ces pirates, et voilà. Moi, de toute façon, je télécharge, enfin les gens se disent ça, ils disent, moi de toute façon je sais pas télécharger, je m'en fous, etc. Mais quand ils vont se retrouver, quand ils vont se faire hacker leur routeur, ou quand ils vont se retrouver dans une liste d'IP que X ou Y leur aura usurpé ou leur aura injecté dans une liste de tracker torrent, ils vont galérer pour prouver leur innocence et pour dire qu'ils avaient rien à voir avec ça, parce que là, pour le coup, la loi, elle prévoit que de toute façon tu te fais suspendre, et après tu luttes pour prouver ton innocence. Et mis à part cette espèce de mouchard qui est censé certifier ton disque dur, t'as pas grand chose à faire, quoi. Ouais. Donc les gens vont s'en rendre compte, mais il sera trop tard. Et bon, l'étape, en fait, c'est ça, c'est que là, pour l'instant, on est effectivement entre geeks, entre gens avertis et passionnés d'Internet, mais il faut passer au stade supérieur, il faut avertir le grand public, quoi. Il faut que les gens prennent conscience, et ça, c'est pas évident. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé qu'à 400, qu'à 500 sur cette journée-là, quoi. Parce que tout le monde s'en fiche dans le sens où, bah, tout le monde s'en fiche parce que ça, c'est abstrait, c'est super abstrait pour les gens. Ils se rendent pas compte ils se rendent pas compte de la menace. Je te dis, ils vont sur Internet pour aller voir des conneries, des vidéos, des machins, etc. Mais ils se rendent pas compte qu'un jour, quand ils auront vraiment besoin d'un truc, ou d'une vraie source d'information, ou vraiment, ils auront vraiment un message à faire passer, bah, ils pourront peut-être plus à ce moment-là. Voilà.
Ah, c'est bon, tu m'as déprimé pour la soirée, là, Corben.
C'est vrai. Cool.
Mais non, mais c'est vrai que le grand public est peut-être pas au courant, et dans tous les cas, on est le 27 donc aujourd'hui, et le 28, la loi va très certainement être votée, et pour le coup, elle va passer. C'est en marche, et puis ben, je pense qu'on ne peut qu'espérer que tout ce qu'on dit depuis des semaines sera vrai, c'est-à-dire que c'est tout simplement inapplicable de toute façon, et c'est une loi qui ne servira à rien. On espère. Bon, allez, parlons d'autre chose et parlons de webcam et de Google, parce que Google a sorti une petite série de nouveautés. Hein. Je crois qu'on n'a pas fait une seule émission depuis le début sans une nouveauté Google ici ou là. Et cette fois-ci, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ajouté les webcams à Google Maps. C'est-à-dire que quand on va sur Google Maps, hein, qu'on connaît bien tous, hein, il y a une option dans Extra d'activer les webcams et ça affiche très simplement toute une série de webcams. Je ne sais pas d'où ils les sortent, hein, ils ont fait une alliance avec une société qui était spécialisée là-dedans, mais sur Google Maps, vous avez des webcams qui sont affichées. Si vous cliquez dessus, bah, vous voyez ce qui se passe à l'endroit où vous avez cliqué. C'est... Alors, bon, moi, vous allez me dire hein, si c'est moi qui suis un petit peu vieux, mais moi, ce genre de choses m'émerveille toujours. Quoi. Comme je ne suis pas né avec Internet, à chaque fois que je vois un truc comme ça, je me dis oh, mais c'est incroyable ce qu'on fait aujourd'hui, ma bonne dame.
Hein? Ouais, c'est top. C'est vrai que les webcams, c'est sympa. Là. Tu vois, par exemple, bah, demain, je n'ai pas testé hein, le service de Google, mais j'irai sûrement voir pour peut-être suivre la manif Adobe à Lyon demain soir ou tu vois, regarder un peu la météo qui se passe à gauche, à droite. Non, c'est vrai que moi, ça m'émerveille aussi. Je trouve ça vachement sympa de voir ce qui se passe.
Ouais, le fait de l'avoir comme ça sur la carte, quoi, directement, tu as les petites images, c'est bien foutu, tu cliques dessus. Enfin bon. Tu l'as vu, Eric ?
Je l'ai pas vu, mais moi je te rejoins complètement, Patrick, sur le côté émerveillement, puisque moi je suis comme toi, je ne me lasse pas de et c'est aussi pour ça que je fais ça, je me lasse pas de découvrir tous les jours ce que le web et les gens créatifs peuvent nous apporter. D'autant que je suis vraiment un adepte des webcams depuis longtemps. J'adore voyager comme ça virtuellement quand je m'emmerde ou que j'ai un peu le blues, j'ouvre une webcam et je regarde les plages de Californie ou. Et donc j'adore
Est-ce
ça.
Est-ce que tu as une webcam sur toi en fait ? C'est ça la question que je voudrais poser maintenant.
Dans son œil.
Ouais, voilà.
Contre, il y a une webcam historique pour moi. Alors ça fait longtemps que je suis pas allé, mais vraiment c'est un kiff. C'est la meilleure parce que c'est une des seules qui diffuse un stream vidéo de très bonne qualité, 24h/24 en live. C'est la fameuse webcam. C'est la webcam de EarthCam de Times Square à New York. Et en plus, quand t'as un peu de chance et qu'il y a pas trop de monde, tu peux prendre les commandes de la webcam et faire des panoramiques en 360 degrés sur Times Square. Donc tu y es vraiment. Tu vois les pigeons qui se baladent sur les trottoirs. Enfin, c'est fabuleux quand t'as envie d'un peu de voyager mais que t'as pas ni les moyens ni le temps de te payer un billet d'avion. Et ben tu te fais une petite trip vite fait à Manhattan et c'est un vrai bonheur. Et je suis en train de regarder si elle existe encore. Et elle était même accessible à l'époque avec mon smartphone sous Windows Mobile. Donc je pouvais la regarder n'importe où et je l'avais dans mes favoris. Et de temps en temps, je me faisais un petit tour à Manhattan où je montrais ça à mes amis et c'était vraiment bluffant. Je suis en train de regarder New York City, Times Square Cam. Bah, je crois qu'elle est toujours là. Et alors le mieux, c'est que maintenant, enfin depuis quelques temps déjà, hein, tu as l'image et tu as le son. Donc tu entends les klaxons, les taxis. Enfin, tu t'immerges dans Manhattan complètement. C'est EarthCam, donc cam, voilà, j'y suis, vous allez entendre le son.
Ouais.
Voilà, donc je suis en direct de Manhattan, je vois les gens passer, je les vois comme si j'étais là.
Magnifique. Mais écoute, ça te permet de voyager dans l'espace. Ça m'a d'ailleurs mis une petite larme à l'œil. Mais Google te permet également de voyager dans le temps grâce à Google News Timeline, ouais. Que vous avez peut-être vu aussi.
Oui, complètement.
Ouais.
J'en ai parlé sur Presse Citron, j'adore ça aussi.
Ouais. Et ben alors, tu peux peut-être nous expliquer de quoi il s'agit, Eric ?
Oui, alors en fait, c'est un nouveau service qui émane pour l'instant des labs de Google, et donc qui consiste à présenter l'actualité de différentes sources sur une frise temporelle, donc une ce qu'on appelle une timeline en anglais, donc qui permet de sélectionner les médias qu'on souhaite voir, et puis de les afficher sur cette fameuse frise temporelle par jour, par semaine, par mois, par année ou même par décade, pour remonter très très loin.
Par décennie, ouais.
Voilà, par décennies, avec on peut avec différentes options de taille et puis aussi évidemment un moteur de recherche par news, par catégorie. Et ce qui est sympa, c'est que les blogs sont aussi indexés. Et donc vous pouvez vous offrir la frise temporelle de votre propre blog, si tant est que vous en ayez un, de façon à avoir un petit peu, avoir une vision un petit peu générale et globale des infos que vous avez diffusées sur une période donnée. Et ça vous permet de voir un peu votre activité, de voir les jours où vous publiez moins, les jours où vous publiez un peu plus. Et puis voilà, donc c'est je dirais que ça fait partie entre guillemets, et sans que ça soit péjoratif, des gadgets de remix un petit peu de l'information telle que Google aime bien en sortir de temps en temps. Mais moi c'est déjà dans mes favoris. Alors je dis pas que je vais y passer mes journées, mais de temps en temps, je pense que il se passera pas une semaine sans que j'y aille deux trois fois pour voir un petit peu ce que ça nous dit.
Mais c'est ça qui est extraordinaire, en fait, c'est que c'est simplement une réorganisation de l'information, ce qui est la mission officielle de Google, c'est-à-dire organiser l'information du monde entier. Et ça permet d'explorer l'information dans le temps d'une manière qu'on n'avait jamais vraiment eu avant. C'était des possibilités qu'on n'avait jamais vraiment eu avant. Et là, je suis dessus en ce moment. Il y a Time Magazine et Wikipédia. Et j'ai mis donc en par décennie. Et là, on remonte à 1960, 1910 et on a c'est très bien fait parce qu'on a les couvertures du Time de l'homme de Man of the Year de chaque décennie. On peut rentrer dans les différentes années, on peut remonter très très loin hein, grâce à Wikipédia.
Moi, je suis à 1800.
Tu disais t'es à 1800.
Mais 1920 là. Les 1920, ouais. Enfin bon, ça s'est ouvert par défaut sur 1920, mais évidemment, je peux descendre plus loin puisque là, je suis maintenant à 1870. Donc, alors il existe déjà des agrégateurs qui proposent cette organisation un petit peu de l'information par timeline, mais c'est pas aussi bien fait que Google. Ce qui est un petit peu bluffant avec Google, c'est que finalement, ils reprennent des idées d'organisation de l'information qui paraissent comme ça simple, mais ils font ça vachement bien, et finalement, une fois qu'ils le font, on se dit, mais ouais, pourquoi on n'y a pas pensé avant?
Exactement, ouais. Donc là, enfin, bon, c'est pas aussi bluffant que Google Earth l'était à l'époque, qui permettait vraiment d'explorer la Terre d'une manière simplissime, ouais. Mais ça en est pas loin. Moi, ça m'a vraiment bluffé aussi, quoi.
Ouais, et puis ça fonctionne bien, l'affichage est très très rapide.
Moi, je veux pas foutre la merde, hein. Mais
toi,
ça
tu t'en fous, en fait.
Ouais, moi, ça m'a absolument rien fait du tout. Si tu veux, cette info, on l'avait déjà, ok, elle n'était pas présentée de la même façon, mais on pouvait quand même remonter aussi loin et voir, voir tout ce que vous venez de dire. Bon, c'est vrai que c'est agréable, c'est bien présenté, etc., mais c'est pas non plus.
Bah oui, mais regarde, c'est comme Google Earth,
ça m'a
déjà
pas
Google
excité.
Maps, Google Earth, il y avait déjà Google Maps, mais ça existait déjà, c'était possible, mais la présentation a tout changé.
Ouais. Ouais.
Pas convaincu, Corben. Hein.
Non, pas encore.
Attends, je suis en train de regarder un petit peu ton blog, je remonte à 1925, tu vois, ça remonte loin quand même. Tu devrais
ouais, c'est top.
Bah là, je suis à 1400, et la première information est en... Donc ça commence en 1400. Bref, donc allez y jeter un Google.
Ouais.
C'est fort. Allez y jeter un coup d'œil, c'est sur newstimeline.googlelabs.com et ça sera évidemment dans les notes de l'émission. La suite, c'est faites attention à ce que vous mettez sur Facebook. Et là, on rentre dans le domaine délicat de l'information privée et publique sur Internet parce qu'il y a un locataire d'un appartement en Angleterre qui a fait une fête dans l'appartement, une fête un petit peu agitée il y a quelques semaines, et il a mis les photos sur... Bon, quand on dit un petit peu agitée, ça veut dire qu'il y avait des nanas qui dansaient à moitié à poil sur les tables, il y avait des bouteilles d'alcool cassées sur le sol, enfin bref, c'était un petit peu le foutoir. Et il a mis les photos sur Facebook. Manque de peau, la proprio était en train de passer d'un ami à un autre sur Facebook et elle a fini par tomber sur les photos de son appartement qui était en train d'être mise à sac, enfin qui avait été mise à sac. Donc elle a appelé la police et elle a fait renvoyer le mec de l'appartement sans... Enfin, il se trouve que le mec s'en est rendu compte et s'est barré finalement parce que visiblement ils étaient un petit peu bizarres, les gars en question. Mais c'est grâce à Facebook qu'elle a vu ça et elle a pu faire intervenir les autorités à temps. Il n'y avait pas de danger, hein, mais elle a pu faire récupérer son appartement et se rendre compte qu'ils étaient en train de le détruire. Donc voilà, faites gaffe à ce que vous mettez sur Facebook quand vous détruisez un appartement. Hein.
Bon, moi j'invite tout le monde chez Eric demain soir. Après la manif Adopi, on lui repasse son appart. Allez, hop.
Bon, on verra à la maison.
T'as pas une webcam chez toi comme t'aimes les webcams. Ah, mais d'ailleurs, il y a une autre histoire qui était marrante. C'était une nana qui avait une webcam de surveillance dans son appartement. Qui s'est rendu compte qu'elle était en train d'être cambriolée. Tu l'as vu, Corben ?
Ouais, j'ai vu.
Mais ce qui est fort, donc, c'est qu'elle s'est rendue compte qu'elle était vraiment en train d'être cambriolée. Donc, il y a la vidéo qui est disponible sur Internet. Et on voit donc les mecs qui rentrent dans l'appart, qui sont tranquillous, qui se baladent, qui ouvrent le frigo et tout. Elle a appelé les flics. Et tu vois également dans la vidéo, et elle était en train de surveiller parce qu'elle voyait par sa webcam surveillance à distance et tout. Elle voit... dans son appart, non seulement les flics qui arrivent, mais en plus les mecs qui voient les flics qui arrivent, qui commencent à paniquer et qui se barrent en courant, quoi. Donc, c'était pas mal. Dernière petite chose à propos.
J'ai une anecdote comme ça qui est arrivée à un ami, hein, pour faire rapide, je vais faire bref, mais un ami qui a effectivement qui est sorti avec sa femme un soir et il a laissé sa jeune fille qui doit avoir 12-13 ans à l'appartement et sa grande sœur a vu que la petite sœur était en train de mettre le bazar dans l'appartement et notamment que des gamins faisaient des bêtises en se mettant debout sur les rambardes du balcon et elle a alerté les parents qui sont rentrés plus tôt, enfin c'était exactement le même genre d'histoire.
Elle a vu ça avec une webcam qu'ils avaient dans l'appart en fait ?
Non, c'est-à-dire que la petite sœur devait poster des photos de la soirée en temps réel un petit peu sur Facebook. La grande sœur qui était la seule à avoir l'accès au compte Facebook, parce que les parents n'étaient pas au courant, a alerté les parents et ça s'est pratiquement fait en temps réel. Ils m'ont raconté ça et ils sont arrivés, enfin il était temps, quoi.
D'accord.
Bon, ça n'a pas fait de buzz, mais ils auraient pu faire la une des journaux.
Faites gaffe à ce que vous postez sur Facebook. Et ce qui est clair, c'est que vous aurez de plus en plus de mal à poster sur MySpace, parce que MySpace est en train de remplacer ses dirigeants un à un. Enfin bon, j'exagère, hein, et c'est pas qu'ils vont fermer demain, mais ils sont en perte de vitesse, ou du moins en croissance beaucoup plus ralentie. Et par rapport à Facebook, c'est plus du tout là où ils étaient concurrents il y a quelques mois encore. MySpace n'est pas en bonne posture. Il reste fort pour la musique, mais pas pour le reste. Au niveau des vidéos...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bizarre sur Internet, vous avez vu la vidéo de Domino's Pizza?
Oui. et moi j'ai regardé ça et j'avais envie de me commander une pizza le midi, tu vois.
Pardon?
Ça m'a donné faim. Je dis, j'ai regardé ça et ça m'a donné faim bizarrement. Ah. J'avais envie de pizza le midi. Mais bon,
ah mon
après.
Dieu. Bon, ben tiens, raconte de quoi il s'agit, tiens.
Non, mais c'est des employés de Domino's Pizza qui se sont amusés à faire une petite vidéo pour faire plaisir à leur patron, où on les voit péter au-dessus des ingrédients de la pizza, mettre des trucs dans leur bouche reposée, enfin y toucher, enfin faire un peu des trucs bien crado avec la bouffe. Et du coup, ça a fait un méga buzz, un méga bad buzz pour Domino's Pizza, parce que bon, c'est quand même une entreprise internationale. Et quand deux cons comme ça dans un coin d'une cuisine perdue au milieu des États-Unis s'amusent à faire ce genre de choses, du coup ça dégoûte un peu la planète entière sur la marque Domino's Pizza.
Ouais, pour le Donc coup, c'était pas juste ah, on s'amuse bien, c'était vraiment dégueulasse quoi.
Ouais.
Et moi, ce que ça m'a inspiré en fait, c'est que pour le coup c'était carrément criminel, parce que la vidéo est devenue virale en 3 jours, elle a été vue des centaines de milliers de fois, Et ça te donne, enfin, sans faire de jeu de mots idiots, ça te laisse un mauvais, un mauvais goût dans la bouche et t'as vraiment pas envie de commander, enfin, à part si t'es Corben, t'as pas hyper envie de commander une Domino's Pizza après, quoi. Donc, c'est, à mon sens, non, Domino's doit porter plainte et là, pour le coup. Et qu'est-ce qu'ils sont débiles aussi, les mecs qui ont fait ça? Ils se sont complètement, ils se sont laissés, enfin, ils sont filmés, quoi. On voyait leur visage à découvert, enfin, c'était.
Ah, ouais.
Et donc, ils ont
du boulot, à mon avis.
Pardon ?
Ils sont pas prêts de retrouver du boulot, à mon avis.
Ah, bah, c'est clair. T'imagines sur ton CV, j'ai fait une super vidéo virale sur internet. Avec
en fait, c'est un
bon moyen de déglinguer tes concurrents. N'empêche, tu fais embaucher deux mercenaires chez ton concurrent, tu leur demandes de faire un truc bien dégueu et de se filmer. Et c'est bon, quoi.
Ouais, c'est vidéo virale commando, en fait.
Ouais. Je ne connaissais pas trop cette histoire, je n'avais pas eu le temps de la voir, mais moi ça m'inspire un truc, c'est qu'en fait c'est la mise en scène ou la mise en image des légendes urbaines qui courent sans arrêt autour de la bouffe. Combien de fois on a entendu des trucs absolument abominables sur attention, ce que vous mangez c'est dégueulasse, vous ne connaissez pas les processus de fabrication industrielle, si vous les voyez, si vous alliez dans une usine de conditionnement d'agroalimentaire, vous mangeriez plus jamais, enfin voilà, et là et notamment ces histoires, moi j'en ai toujours entendu parler d'histoires comme ça, de gars qui
font viande de ver de terre dans les steaks McDo, ce genre de trucs quoi.
Ah, ou, parce que pour se venger contre son patron on met un rat crevé dans la confiture, enfin des choses comme ça, voilà, donc là ils l'ont
crevé dans la confiture. C'est un truc que t'as fait ou parce que c'est un peu bizarre comme idée?
Non, je l'ai ni fait ni mangé, mais oh, c'est un exemple.
D'accord. Non, mais c'est vrai. Enfin, bon, justement, comme tu le dis, Corben, ça peut être un moyen de discréditer un de tes concurrents, et c'est pour ça que ça devrait être traité comme affaire criminelle, à mon sens.
Du coup, je sais pas si t'as vu la vidéo après du Big Boss de Domino's qui s'excuse, hein, qu'il fasse le gars, quoi. Il s'est excusé, il a dit que voilà, dans le monde, des milliers de gens fabriquaient des pizzas de qualité pour ses clients, etc. Mais, enfin, franchement,
ils ont bien réagi, je trouve, Domino's, qui est pas une boîte spécialement high-tech. Ils ont tout de suite répondu sur le net avec une vidéo. Le PDG qui dit un truc plutôt bien.
Oui. Ils ont réagi, mais va rattraper un truc comme ça, quoi. C'est impossible.
Beau cas d'école de communication de crise, en tout cas.
Mmh. Ouais.
On ne sait pas s'ils peuvent le rattraper, mais en tout cas, s'ils peuvent, je pense que c'était la bonne méthode, quoi.
Mmh.
Une autre vidéo qui m'a bien plu, moi, cette semaine sur Internet, c'était la vidéo, ce truc incroyable, des mecs qui jouent au foot au Brésil, mais de manière, c'est genre les Yamakasi du foot, quoi. Vous avez vu cette vidéo ou pas?
Oui. Non. Alors, elle n'est pas tout à fait récente, parce que moi qui suis un peu le foot et qu'il y a un gamin qui...
Il y a quelqu'un qui allait la voir, là.
Voilà. Elle date un peu, hein. C'était une vidéo qui a quelques mois, ou même qui est sortie, janvier 2008.
Ah oui? C'est si vieux que ça?
Tous les gens qui s'intéressent un peu à la question et qui aiment bien le
foot. Tu réchauffer dans le rendez-vous high-tech, là. Ça va pas, ça.
Moi, je parle de l'actualité. Il se trouve qu'elle est devenue virale là cette semaine. Donc ensuite, si elle est plus vieille, j'y peux rien. Moi.
Ouais.
En fait, c'est bon, je me suis sorti d'affaire correctement.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est de. Enfin, la question, c'est toujours pareil. C'est de la réalité de ce qu'on voit sur des vidéos sur Internet et qui profite aussi de la mauvaise qualité de l'image. Moi, je l'ai bien étudié cette vidéo. On l'a regardé un petit peu parce qu'on s'intéresse au foot freestyle comme ça. Je suis pas sûr qu'il y ait pas. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de trucage.
En fait, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que c'est une vidéo de promo. Je sais pas si t'as remarqué, mais à la fin. D'ailleurs, je vais chercher la date parce que ça m'étonne ce que tu me dis quand même sur ce truc. Ah. Parce que
c'est 28 janvier. Enfin, la première diffusion sur YouTube 28 janvier 2008, donc ça fait un peu plus d'un an.
D'accord.
Mais je pense que c'est même un peu plus. Oui, c'est un peu plus vieux que ça, parce que c'était la sortie de FIFA Street 3 et maintenant on doit être au 4, je crois. Enfin, je sais plus.
Voilà, exactement. En fait, c'était FIFA Street 3 et c'était une vidéo virale. T'as raison. Il est sorti en mars de l'année dernière. Donc la vidéo est effectivement assez ancienne, mais moi ce que j'avais beaucoup aimé, bon d'une part c'est clairement, c'est pas des trucs vrais, mais c'est des trucs du genre, ils s'envoient le ballon à 10 mètres en faisant des sauts périlleux, en le rattrapant, et des trucs genre à mi-chemin entre le Viet Vodao et le foot, quoi. et les Yamakasi. Enfin, c'est invraisemblable. Mmh. Mais ce que j'ai trouvé super bien foutu, c'est que à aucun moment tu ne vois le nom du produit sur la vidéo, et c'est seulement à la fin. Tu vois en toute petite lettre en bas FIFA Street 3, et c'est pas un truc où ils te disent, tu vois, ils te le balancent à la gueule hyper violemment, achetez notre jeu, regardez, vous pourrez faire ça. Ça a été fait de manière très subtile, et c'est, à mon sens, hein, en tout cas, très en phase avec. C'est des gens qui ont compris la manière dont fonctionne Internet et qui ont réagi en fonction. Donc, moi, j'ai trouvé ça très efficace, et en plus, la vidéo est marrante à voir et impressionnante. Donc,
c'est génial. Alors, dans tous les gestes, il y a quelques trucages, mais pas que ça. Il y a aussi des gestes complètement hallucinants qui sont faits en réalité, parce que les freestylers en foot arrivent à des niveaux maintenant qu'on a du mal à croire. Il faut vraiment le voir pour le croire. Moi, ça me rappelle aussi ce que fait Nike. Nike a un site a des sites évidemment thématiques sur tous les sports, mais notamment sur le foot où ils ont fait, je crois que c'était il y a un an ou deux ans à l'occasion de la Coupe du Monde, une chaîne, c'était très drôle et c'était vachement bien fait, où tous les internautes pouvaient envoyer une vidéo dans laquelle la figure imposée c'était de recevoir un ballon par la gauche, de faire deux trois acrobaties avec, deux trois jongles, et de le renvoyer par la droite. C'est-à-dire qu'il rentrait de l'écran par la gauche, il repartait par la droite.
Et ils en ont fait une série de vidéos.
De plusieurs centaines, voire plusieurs centaines de vidéos. Vous pouvez regarder, qui s'enchaînaient toutes, et qui faisaient le tour du monde, comme ça, ou de jongles, où le ballon passait d'un décor à un autre, et c'était très très bien fait, et tout le monde pouvait envoyer sa vidéo, et on pouvait, ça a été les premiers à non seulement les proposer en streaming, mais à proposer tous les formats de téléchargement. C'est allé sur ce site thématique de Nike, tu pouvais voir la vidéo en streaming, mais également la télécharger sur iPod, sur Windows Mobile, etc. etc. L'iPhone n'était pas sorti encore à l'époque, je crois, et c'était vraiment très très bien fait.
Ouais, bah écoute, encore des gens qui ont tout compris, quoi. C'est clair. On va passer à la partie préférée de tout le monde dans la chatroom, j'en suis certain, et je vais faire une petite introduction musicale. Bon, bref, oui, voilà, ils ont bien compris, c'est la partie Twitter. Donc, le quart d'heure Twitter, non, pas la demi-heure, il y a Smora qui dit c'est la demi-heure Twitter, c'est que le quart d'heure Twitter. Et la musique du quart d'heure Twitter, maintenant j'ai la pression parce que je l'ai fait la dernière fois, donc tout le monde l'attend maintenant. Pas mal, hein.
Ça, c'est la musique officielle de Twitter, ça.
Oh, non, la musique officielle du quart d'heure Twitter sur le rendez-vous tech. C'est pas la même chose.
Ah ouais, c'est classe. Hein.
Bon, bref, qu'est-ce qui s'est passé sur Twitter, évidemment, hein, une fois de plus, on n'a pas un mois sans... Merci, la chatroom apprécie. On n'a pas un mois sans nouvelles sur Twitter. Et ce qui s'est passé là, c'était une sorte de course invraisemblable entre CNN, qui est quand même une boîte avec quelques dizaines de milliers... Enfin, bon, je veux pas dire de bêtises, avec plusieurs milliers de personnes à travers le monde employées pour la boîte, et... Ashton Kutcher, qui est un acteur américain qui est assez connu, mais enfin qui est quand même tout seul. Et la course, c'était la course pour atteindre le million de followers sur Twitter. Et il se trouve que c'est Ashton Kutcher qui a gagné, qui a battu CNN et qui a réussi à avoir un million de followers sur Twitter en premier. Ça vous inspire quoi, vous les gars Twitter, puisque on sait ce que j'en pense et que j'en suis fan, mais...
Là, j'ai vu les derniers chiffres. Il y a 19 millions là de personnes sur Twitter, et depuis cette histoire là de CNN, d'Ashton Kutcher et surtout d'Oprah qui a fait une émission live avec Eve de Twitter là, où ils ont fait une démo, etc. Je sais pas si t'as vu la courbe sur, je crois que c'était sur TechCrunch.
Excuse-moi, quand t'as dit Eve, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à Eve Ruggeri, mais je sais pas d'où ça m'est sorti.
Rien à voir, ouais. et je sais pas si t'as vu la courbe de progression sur TechCrunch, mais c'est un truc de fou, quoi. Ça monte, mais à la verticale presque. C'est hallucinant, quoi. C'est en train
c'est incroyable.
Une vitesse grand V.
Alors, ce qui se passe, c'est que Effectivement, il y a un effet de boost terrible en ce moment du fait de l'arrivée des people et des gens connus sur Twitter. Tout le monde maintenant, ça y est, tout le monde en parle. J'entends même, on parle de Twitter dans les pubs radio qui pour les revues people, etc. Donc, c'est en train de toucher vraiment par l'intermédiaire des stars, le grand public, comme diraient les Américains, de shit hit the fan, c'est-à-dire la merde a touché le ventilateur.
Donc elle est envoyée partout, quoi. Ça y est, c'est terminé.
Et donc, on en est là et on est effectivement dans cette phase de transformation un petit peu où les early adopters maintenant laissent la place au grand public. Ce qui est à craindre avec ça, c'est est-ce que ça va pas amener aussi énormément de bruit et beaucoup de choses qui risquent de diluer un petit peu l'intérêt de Twitter.
Je ne sais pas si ça va diluer, mais avant que tu continues, il y a une personne dans notre chatroom, YouStreamer94670, qui dit que il y a un compte Jack Chirac qui le suit depuis hier, donc il se demande si c'est le vrai.
Non, c'est faux.
Je pense pas que ça soit le vrai non plus, mais c'est amusant.
Ouais, ouais, j'ai vu ça. Bon, régulièrement, il sort des fakes comme ça, de célébrités. Mais en tout cas, les Américains maintenant sont à fond dedans. En France, le phénomène, on est encore dans l'étage un petit peu inférieur de la fusée. C'est-à-dire qu'on en est aujourd'hui à l'investissement de Twitter par les entreprises. Et des politiciens, effectivement. Mais effectivement, tout ça va aller dans le sens d'une très forte popularisation de Twitter. Alors, pour l'histoire d'Ashton Kutcher, ça me rappelle un petit peu cette petite parabole sur les blogueurs, mais on peut l'appliquer aussi à Twitter. Pour être un blogueur célèbre, vous avez deux possibilités. Soit être un blogueur et faire en sorte de devenir célèbre, ou une possibilité qui est beaucoup plus simple, c'est être célèbre et devenir un blogueur. Et là, c'est un petit peu ce qui se passe avec Twitter.
Bon, il y a beaucoup de gens, moi j'étais très enthousiaste sur Twitter justement avec cette nouvelle et j'ai signalé que, enfin pour moi j'ai dit que c'était le légalisateur parfait parce que tout le monde était sur un pied d'égalité sur Twitter et beaucoup de gens m'ont répondu oui mais attends, Ashton Kutcher quand même c'est pas n'importe qui, il est déjà célèbre et donc c'est pas la même chose, mais je pense que les gens ne comprennent pas bien ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que l'idée n'est pas que quelqu'un soit célèbre ou pas et énormément de followers. L'idée est que, encore plus que sur le web où c'est déjà le cas, n'importe qui avec très peu de connaissances et très peu de structure derrière a exactement les mêmes possibilités qu'une entreprise multinationale. C'est-à-dire que Ashton Kutcher, célèbre ou pas, c'est un seul mec avec son téléphone portable. Et il a 1 million de personnes qui le suivent, ou en tout cas, 1 million de personnes ont autant accès à son information qu'ils ont accès à l'information de CNN. Donc, de ce point de vue-là, ils sont sur un pied d'égalité. Ensuite, célèbre ou pas, c'est un autre problème. Mais on vient quand même d'un monde où, il n'y a pas 15 ans, si tu n'étais pas CNN, il t'était impossible, mais totalement inimaginable, de toucher autant de personnes. Donc, c'est surtout ça que je veux signaler, moi.
Moi, je trouve que ça rapproche aussi les gens. C'est-à-dire que, moi, je me mets par exemple à la place des fans de telle ou telle star, ou enfin, tu vois, je sais pas, enfin, tu leur parles directement. Après, ils te répondent, ils te répondent pas, mais parfois, ils peuvent te répondre et ils disent ce que t'écris.
Il y a quelques personnes sur le chat qui disaient, Dave59, par exemple, dit moi, je suis fan de Corben. Et tout à l'heure, quand t'as parlé, il disait Corbenou, enfin, il est là, etc. T'as tes fans aussi et ils peuvent être effectivement en lien presque direct avec toi sur Twitter. Moi, je réponds aux gens, très souvent, je réponds aux gens en message direct ou sur Twitter.
C'est pas des fans, moi, c'est des disciples.
Des apôtres.
Des apôtres.
De la Corben attitude.
Ouais, Patrick, ce que tu disais sur le fait que un gars tout seul avec son téléphone mobile peut arriver à avoir autant de followers qu'un grand média d'information, c'est effectivement le cas avec Twitter, mais c'est également quelque chose qui est vrai et qui est démontré aussi avec des sites internet, donc ce qu'on peut considérer avec des médias plus traditionnels. C'est le cas notamment d'un site internet américain qui s'appelle, si je me souviens bien, The Drudge Report, et qui en fait est une page HTML d'information tenue par un seul bonhomme et qui est devenue une référence dans l'information
politique, ouais.
politique aux États-Unis et qui était réputé, alors bon, les chiffres sont discutés, ils sont sujets à caution, mais quand même, qui était réputé avoir fait plus d'audience au moment des élections américaines de Barack Obama, plus d'audience sur certains jours que justement, je ne sais plus, Washington Post ou New York Times. Et c'est un gars tout seul avec sa page HTML, qui est une page en plus, comme d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de règle là-dessus, une page absolument horrible en HTML statique qu'il doit mettre à jour tous les jours avec un éditeur de texte.
De texte, oui, elle est horrible. Le Judge Report, il est.
Voilà, mais il fait un nombre de visiteurs absolument hallucinant et comme il affiche un peu de public publicité sur cette page, mais une publicité qui n'est pas très envahissante d'ailleurs, il gagne très très bien sa vie. Je crois que, enfin, j'avais les chiffres que j'avais mis sur Presse Citron sur son chiffre d'affaires annuel, c'était en millions de dollars, je crois.
Non, je suis d'accord, c'est certain, c'était pas impossible avec avec le web, c'était déjà possible, mais là, c'est encore plus, parce que pour faire un site, bon, hormis le Judge Report, qui est quand même un cas particulier, généralement, le site d'une personnalité, si minime soit-elle, elle a quand même besoin de quelqu'un qui s'occupe du site. Là, c'est vraiment un accès direct et simplissime. C'est dans ce sens que je dis, Internet, c'est le grand égalisateur. Twitter, c'est l'égalisateur ultime, quoi. Tout le monde, n'importe qui, un fermier en Inde avec ses trois vaches, ils ont tous des téléphones portables là-bas, je le sais parce que j'ai des amis qui y font un voyage régulier. Ben avec ton téléphone portable à la con, tu peux avoir le même accès que CNN sur Twitter. Donc ça va encore plus loin, si tu veux, que cette tendance qui existait déjà, il est vrai.
Moi, ce que je trouve pratique là-dedans, c'est surtout de pouvoir. Enfin, c'est une extension, par exemple, pour moi, c'est une extension de mon blog. C'est-à-dire que, bah voilà, mettre à jour le blog, ça peut être chiant si, bah, justement, t'es sur ton téléphone, t'es dans la rue, etc. Et que si t'as envie de, enfin, tu vois, de faire un peu le mini reporter, par exemple, comme ce que j'ai fait pour la manif là de ce week-end, j'ai pris des photos, je les ai envoyées sur Twitter. Quoi. Je pouvais pas les mettre à jour sur mon blog, ça m'aurait pris trois plombes et c'était pas fait pour ça. Avec Twitter, c'est vrai que c'était ultra rapide, c'est vraiment du microblogging, quoi.
Bah voilà, c'est exactement, tu illustres exactement mon argument.
Mais ça complète, effectivement, pour un blogueur ou même pour maintenant un média d'information plus traditionnel, ça complète, c'est un outil supplémentaire et complémentaire à la panoplie du journaliste ou du blogueur. D'ailleurs, tous les médias s'y mettent, mais je sais que les premiers à avoir tenté l'expérience, c'est l'Express, qui a 2 ans a commencé à créer des comptes Twitter pour les reporters en place sur les envoyés spéciaux sur le Festival de Cannes. Et ils ont commencé à tweeter le Festival de Cannes en direct. Alors, avec chacun une tâche à signer. Il y en avait un qui tweetait en direct de la salle de projection, l'autre en direct des coulisses, l'autre en direct des soirées au bord de la piscine.
Et, moi, j'aurais bien voulu faire celui-là, en fait.
Voilà. Ils ont créé un flux comme ça de reporters Twitter.
Et vous savez qui fait également un flux de Twitter qu'on n'attendrait pas ? C'est la police de Denton, qui s'est mise à diffuser sur Twitter les photos, les mugshots, vous savez, d'arrestation, qu'ils diffusent donc avec votre âge, votre date et le crime qui a été commis. Donc c'est un moyen de dire aux gens, attention, si vous faites une bêtise, vous allez être publiquement montré du doigt. Le problème, c'est qu'une fois que ça arrive sur Twitter, c'est sur la toile. Et une fois que c'est sur la toile, ça y est pour toujours. Donc, ça a provoqué une levée de boucliers. Je ne sais pas s'ils le font toujours. Mais le compte Twitter de la police de Denton aux États-Unis a provoqué une levée de boucliers. Et assez compréhensible. Là, j'avoue que ça va un petit peu loin quand même. Je ne sais pas si ça vous plaît, mais moi, je ne serais pas...
Moi j'attends impatiemment le compte Twitter avec les photos des mineurs, tu sais, accusés de pédophilie, qui s'envoient les photos par le téléphone portable, tu vois.
Ah, mon Dieu. Je comprends pourquoi tu as des disciples, en fait.
Ce qui est étonnant, c'est aux États-Unis, je crois que la notion de vie privée est complètement différente de la nôtre et est très relative. C'est-à-dire que, en gros, si on veut savoir des choses sur vous et les diffuser, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement de, ça pose pas tellement de problèmes, en fait.
Bah moi, j'aurais plutôt l'impression, je me trompe peut-être, mais j'aurais plutôt l'impression qu'ils sont plus au fait de la technologie. Et là où un commissariat de police en France aurait peut-être eu l'idée de le faire peut-être, s'ils savaient ce qu'était Twitter. En France, on ne sait pas vraiment encore ce que c'est Twitter.
Et puis, tu n'as pas le droit de faire ça.
Comme c'est devenu... Oui, bon, accessoirement, t'as pas le droit.
C'est,
effectivement...
c'est quand même la grosse différence, quoi.
Non, mais je crois que t'as pas vraiment le droit aux États-Unis non plus, hein.
J'ai vu un truc aussi hallucinant. Enfin, déjà sur Internet aux États-Unis, t'as toutes les Google Maps avec tous les escrocs, les pédophiles, les voleurs, les tueurs qui est autour de chez toi. Et là aujourd'hui, j'ai vu une nouvelle application iPhone où en gros c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire que c'est comme le Around Me, tu sais, le truc qui te dit, par exemple, tu cherches une station-service ou un McDo ou un truc. À côté
ah oui,
de chez
Around
toi,
Me, oui. Oui, tout à fait.
Bah là, c'est pareil, sauf qu'au lieu de localiser un magasin ou un truc comme ça, ça te localise de tous les mecs qui sont à côté de chez toi et qui sont des tueurs, enfin des mecs qui ont des casiers quoi, qui ont été en prison, qui sont référencés dans les bases de données quoi. Ça vient de sortir, là, j'ai vu ça aujourd'hui.
Bon écoutez, si... Oui pardon.
Non mais c'est vachement bien quoi, tu te sens sécurité après.
Bon espérons que ça n'arrive pas ici. Twitter n'a pas que des bons côtés. Par contre, un des bons côtés, c'est qu'on peut avoir des informations de sources, de toutes sortes de sources différentes. Et j'étais sur Twitter en train de parler de je sais plus quoi il y a quelques heures, ou je sais plus, c'était hier, bref. Et il y a quelqu'un qui m'a, une des personnes qui me suit, qui m'a envoyé un petit message. C'était Papitli, précisément, qui m'a envoyé un message à propos d'un service assez marrant qui s'appelle Omegle, O-M-E-G-L-E. .com, qui est un service de chat anonyme. Alors, vous vous connectez, vous cliquez « chatter » et vous parlez avec quelqu'un dont vous ne savez pas qui il est ni où il est. C'est Papifly, pardon. Il est dans la il est dans la chatroom et il me corrige. C'est pas Papitli, c'est Papifly. Autant pour moi, excuse-moi. Et donc, c'est omegle.com et vous lancez dans un chat avec une personne dont vous ne savez pas ni qui elle est ni où elle est. Et c'est hyper simple, ça se passe en 2 secondes, et ça ne sert pas vraiment à quoi que ce soit, mais c'est un concept que j'ai trouvé plutôt marrant, quoi. Le fait de se dire, on est connecté comme ça en 2 secondes avec quelqu'un sur la toile et on se met à parler, salut, comment ça va ? Bon, alors évidemment, les esprits un peu salaces vont se dire que ça va être utilisé à des fins cybersexuelles très très vite, et c'est peut-être le cas, mais moi je veux croire que ça ne sera pas seulement ça.
Ah, moi j'ai testé, je me suis connecté dessus la première fois et le mec qui m'a parlé en voulait qu'à mes fesses. Hein.
bon, d'accord.
Donc c'est vrai que c'est un peu... Bon.
Je suis peut-être un petit peu trop...
J'ai mis l'article, si vous voulez lire ce que le mec m'a raconté, j'ai mis un article sur mon site avec la capture écran, c'est pas triste hein, si vous comprenez l'anglais. Mais non, sinon c'est marrant parce qu'en fait t'as d'un côté les gentils petits français qui se connectent là-dessus et qui pensent qu'ils parlent vraiment à une suédoise et tout ça, et du coup après ils te disent que le service il est super, qu'ils ont eu des photos, qu'ils ont un contact MSN et tout, mais bon ça fait rêver les gens quoi, c'est bien.
Bon, d'accord, bah, moi mes intentions sont bien trop nobles pour la bassesse de l'internet. Bon, et sur ces quelques mots, on va passer à notre section super rapide où on parlera très très vite des quelques infos qui sont bonnes à mentionner mais sur lesquelles on ne s'étend pas non plus. On vous parlait, donc c'est la section on s'en fout, rumeur à la con. On s'en fout slash rumeur à la con. Donc on va très vite. Là, il me faudrait une musique de fond aussi. Oracle rachète Sun. On pensait que IBM allait racheter Sun, mais finalement, c'est Oracle qui se le paye, qui pose la question de ce qu'il va advenir de MySQL. C'est un petit peu technique, mais c'est un logiciel qui est très, très utilisé. C'est un logiciel libre qui est développé par Sun et qui est très, très utilisé dans l'infrastructure du net. On se demande un petit peu ce que va en faire Oracle parce que c'est un concurrent à Oracle. C'est un logiciel de base de données. En 2 secondes, Eric, tiens, puisque tu as été un petit peu silencieux, t'en penses quoi ?
C'est vrai qu'on ne sait pas ce que va en faire Oracle. Il y a une espèce d'antinomie entre le tout-puissant Oracle, qui est quand même, je crois, une des principales sociétés d'informatique et notamment d'éditeurs de bases de données au monde. C'est même un concurrent, je crois, de Microsoft sur pas mal de secteurs. Et puis d'un autre côté, on a MySQL, un logiciel de gestion de bases de données libre et
gratuit.
Et utilisé par énormément de monde et certainement plusieurs millions de sites dans le monde. C'est vrai que tous les développeurs et tous les développeurs...
Donc c'est un peu mis à trembler hein, là, ces dernières semaines.
Ils utilisent ça et se demandent ce qui pourra en advenir. Alors bon, espérons qu'Oracle n'en fera pas un produit commercial ou en tout cas de façon raisonnable avec une licence qui coûte pas trop cher et avec non, toujours mais... un... Et ça paraît difficile.
Ne vous inquiétez pas, ils font pas ça.
Bah, le truc, c'est qu'ils peuvent pas se permettre, quoi. C'est tellement utilisé, ça serait déglinguer Internet s'ils mettaient ça...
Non, ils vont se tirer une balle dans le pied s'ils font ça, ouais, c'est tout. Ça. Parce que de toute façon, comme c'est un logiciel libre, il y a déjà des mecs qui ont fait des forks, enfin qui ont fait des duplicata du logiciel pour pouvoir le développer eux-mêmes dans leur coin. Et si Oracle part en couille avec ça, et les mecs vont lancer un truc libre complètement indépendamment d'Oracle.
Pas MySQL, mais MySQL 2 ou YourSQL.
Ils ont pas intérêt à faire ça parce que tout le support qu'ils vont pouvoir vendre aux sociétés qui vont implémenter MySQL. Ça sera perdu pour eux, donc il vaut mieux qu'ils restent sur la lancée de ce qu'a fait Sun avec MySQL.
Google a connu sa première baisse de revenus de son histoire. La première baisse de revenus de son histoire qui est de 3% par rapport à 2008. Donc ça ne veut pas dire qu'ils perdent de l'argent, mais que la progression est moins rapide. Bon, ils ressentent la crise
aussi.
C'est
de ma faute. C'est parce que j'ai changé de régie en fait. J'ai enlevé les AdSense et je suis parti et du coup ça leur a fait une chute monstrueuse. Mais je me suis excusé.
Ah, ce que t'as fait. Bon, si tu t'es excusé, ils ont accepté tes excuses.
Ouais, voilà.
Bon, alors ça va. Mais je suis sûr qu'ils repartiront à la hausse le mois prochain. Ils ont également présenté un standard 3D pour la navigation en 3D, plutôt un standard 3D pour pouvoir intégrer des modules en 3D dans les navigateurs, que d'ailleurs Mathieu Blanco, notre cher ami Mathieu de MacJT, a envoyé en tweet, on n'en sort pas, hein, à Yann, qui est Yann Allais, notre autre ami de l'émission. Il a envoyé un petit tweet parce que Yann connaît évidemment et est contre tous ses clients légers entre guillemets et Yann a répondu qu'à 18 mégas de téléchargement et d'installation c'était pas vraiment un client léger, donc il y a une petite joute verbale entre eux que je voulais honorer d'une mention dans l'émission. Donc bref, c'est quand même une info intéressante puisque Google se lance dans la 3D standard pour les navigateurs. Peut-être que ça veut dire qu'on aura comme on a de la vidéo très commune sur Internet aujourd'hui, peut-être qu'on aura de la 3D très commune également dans quelques temps. Autre info, c'est la mise en ligne de la bibliothèque de l'UNESCO, la World Digital Library, qui regroupe, je crois, une centaine de milliers d'ouvrages. Donc, ce n'est pas une bibliothèque universelle encore, mais par contre, ce sont des ouvrages assez rares et assez anciens, qui ont plus une valeur historique qu'une valeur actuelle. Et cette librairie est accessible à la wdl.org. Donc vous pouvez y aller pour voir ça, c'est assez intéressant, il y a des textes très 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 vieux, le premier roman qui est un roman japonais, enfin ce genre de choses, ça, j'imagine que ça vous a émerveillé vous deux, vous qui êtes des romantiques du net.
Il y a une timeline qui est assez drôle aussi parce qu'elle pour faire le tri dans la bibliothèque et qui remonte très loin puisque si je ne m'abuse elle remonte jusqu'à 8000 avant Jésus-Christ.
Ah tiens, j'étais pas remonté jusque là. Ça veut dire que Google Timeline a encore du boulot en fait.
Ah oui, ça. Petit bras à côté.
Et dernière chose, dernière petite info rapide, c'est que Apple, on en parlait le mois dernier, enfin pardon, il y a deux semaines, Apple a vendu sa milliardième application. Ça y est, c'est arrivé. Donc il fallait le mentionner, c'est quand même très rapide. Et pendant ce temps, Google a vendu 1 million de téléphones avec le Google Android, donc le système d'exploitation des téléphones portables développé par Google. Décidément, on a fait la moitié des sujets sur Google aujourd'hui. Et j'en profite pour poser la question à Corben, qui utilise le Google Android depuis quelques temps, hein, si je ne m'abuse,
oui.
De savoir
oui, oui.
Ce qu'il en pense. Parce que nous, on est fans d'iPhone ici, mais...
Ce que j'en pense, le téléphone en tant que tel, c'est le G1 là. Bon, c'est un peu un téléphone en carton, hein, il est pas extraordinaire. J'ai vu le G2, je l'ai testé, il est un peu mieux, et j'ai vu un Samsung là aujourd'hui sur internet qui va bientôt sortir et qui a l'air complètement mortel. Après l'OS est vachement sympa, mais c'est vrai, il est un peu plus on va dire graphiquement, il est un peu moins léché que l'OS de l'iPhone. Tu te prends pas la tête quoi, tu peux installer ce que tu veux, tu peux développer ce que tu veux aussi sans forcément demander des licences X ou Y.
Et toi, t'as eu un iPhone en fait avant de passer à Android?
Ouais, enfin non, j'ai pas eu d'iPhone, j'ai un iPod Touch et donc c'est pareil en fait, sauf que ça fait pas téléphone.
Et alors ton verdict entre en trois mots, si tu devrais préférer l'un ou l'autre, sachant que toi t'es un développeur, donc c'est un petit peu biaisé pour un système.
Moi je pense
ouvert,
qu'après, ouais c'est ça, je pense que c'est là, ça sera la même guerre qu'entre les Mac et les PC quoi. C'est juste une question de religion et chacun prendra ce qu'il préfère. Mais moi je préfère Android parce que je pense que justement il va y avoir à terme plus d'applications, plus de choix, plus de diversité et voilà, comme c'est un peu plus ouvert. Le machin là pour l'instant j'ai l'OS vraiment de Google, mais comme pareil c'est un système open source, je me suis installé les versions non officielles avec des versions développées par des mecs un peu indépendamment qui ont compilé des images, des firmware spécifiques, quoi. Etc. Ouais voilà, si tu veux ça se bidouille plus facilement qu'un iPhone quoi.
D'accord.
Donc c'est plus rigolo.
Et dernière info à propos d'Apple, Tim Cook a dit dans un earnings call dans une conférence téléphonique avec les membres du board d'Apple, si je ne m'abuse, qu'il détestait toujours les netbooks, qu'il ne comptait certainement pas en faire et que c'était des machines absolument exécrables. Ce qui veut dire que, a priori, ils vont en annoncer un très bientôt, puisqu'on sait très bien que quand Apple nie aussi violemment quelque chose, ça veut dire qu'ils ont un truc dans les cartons. Donc, voilà. Ça, c'est une supputation complètement personnelle, mais moi, je crois que, peut-être pas un netbook, mais un truc du genre un iPhone un petit peu plus large, ou un truc bizarre qu'ils vont présenter en juin, en même temps que l'iPhone version 3. Moi, ça ne me surprendrait pas.
Une tablette, un genre de tablette.
Une tablette. Ouais, un truc comme ça. Bon, on verra. Dans quelques semaines, on aura la réponse. Et c'est notre dernière info. On va donc passer à notre conclusion avec notre conseil logiciel qui émane du site de Corben, comme beaucoup des infos que je trouve généralement... pour faire cette émission, donc évidemment le site de Corben à consulter, on en reparlera dans quelques minutes, mais le truc dont je voulais parler, le conseil logiciel, donc le logiciel qu'on vous recommande, c'est encore en rapport avec Twitter et ça s'appelle SpreadTweet. Et puisque c'est toi qui en as parlé, Corben, je vais te laisser le présenter.
Putain, je m'en souviens plus moi.
D'accord. Très fort.
Attends, vas-y, redis-moi vite fait ce que c'est.
SpreadTweet, alors, bon, je vais le faire. SpreadTweet, en fait, c'est un logiciel qui vous permet de suivre Twitter dans une fenêtre qui a un aspect de travail. C'est genre Excel.
Oui, en fait, c'est une tranche d'Excel. En fait, c'est une application R qui a exactement la forme de Excel, et que ce soit pour Excel version Windows 2003, 2007 et version Mac aussi. Et on peut effectivement tweeter à partir de. Je lis des commentaires, tout le monde se moque de moi, c'est pas très sympa. À partir de ça, en faisant croire qu'on bosse au travail alors qu'en fait on est en train de tweeter comme un acharné. Mais il y a pire, hein, j'ai mis pareil dans les commentaires, il y a un mec qui m'a envoyé une macro Excel, une vraie macro cette fois qui permet de tweeter, donc tout un programme développé en Visual Basic qui tourne dans Excel et qui permet de tweeter pour de vrai dans Excel aussi, donc même plus besoin de cette application quoi.
Voilà. Bon, en tout cas, ça veut dire que vous n'avez plus d'excuses pour ne pas être sur Twitter et pour ne pas nous suivre sur Twitter, parce que vous pouvez le faire même du boulot en faisant croire à votre boss que vous êtes en train de bosser. Donc voilà, il n'y a pas de raison. Donc ça s'appelle SpreadTweet et le lien sera dans les notes de l'émission.
J'irai voir.
Le site fantastique d'aujourd'hui, c'est un site qui nous a été proposé par Sandrine. Sandrine nous a envoyé un email et ça s'appelle framaki.org, framaki.org, et c'est un site où vous pouvez télécharger des logiciels que vous allez installer sur votre clé USB et qui vont pouvoir se lancer de manière indépendante et vous permettre de faire toutes sortes de choses différentes. Et c'est très pratique quand vous êtes quand vous êtes en déplacement souvent ou ce genre de choses et que vous avez besoin d'avoir vous n'avez pas forcément votre ordinateur avec vous, mais par contre vous avez une clé USB, et ben vous le branchez directement et vous allez pouvoir lancer vos programmes directement depuis votre clé USB et ne pas laisser de traces sur l'ordinateur sur lequel vous l'aurez branché. C'est très pratique, c'est un petit peu technique et ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais ceux qui en ont l'utilité seront bien contents de pouvoir le trouver.
C'est pas technique, hein. Tu prends ta clé USB, tu places tes exés dessus et roule ma poule.
Ouais, non, je veux dire que ça ne sert pas à tout le monde. Quoi.
ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Voilà, et puis on a encore un message audio de William qui nous a envoyé un petit message et je vais essayer de le lire maintenant pour tout le monde, mais je crois que le volume est un petit peu faible, donc si vous ne l'entendez pas dans la chatroom et Corben et Eric, excusez-moi, mais dans le podcast ça sera réintégré, donc tout le monde l'entendra, mais je vais le jouer maintenant tout de suite. Donc William nous dit...
Salut à toute l'équipe de l'RDV, c'est encore William. Alors je me demandais juste, étant donné que j'utilise iTunes, l'idée de Yann sur son podcast de Bande de Noobs d'intégrer des chapitres en fait pour circuler plus facilement, c'est vrai que c'est une très bonne idée. Hein, j'aimerais savoir s'il est possible d'implémenter ça sur le podcast de l'RDV parce que... J'écoute beaucoup vos podcasts, donc ce serait sympa de pouvoir switcher directement d'un chapitre à l'autre sans avoir à noter les minutes et la seconde près, la géniale transition de Patrick ou de je ne sais qui. Voilà, donc encore une fois, bravo pour votre podcast et continuez comme ça. Salut.
Bah merci William, hein, c'est bien sympathique de ta part de nous avoir envoyé un petit message en MP3. Alors la question effectivement de savoir si on peut faire du formatage, enfin du chapitrage pour le podcast. Le truc, j'ai déjà eu la question plusieurs fois, donc c'est pour ça que j'y réponds ici. Le problème c'est que le chapitrage n'est pas possible dans les fichiers MP3. C'est possible uniquement dans les fichiers AAC. Et comme je veux forcément avoir un fichier en MP3 dans le podcast, ça voudrait dire qu'il faut deux formats de fichiers différents. Et c'est d'ailleurs ce que fait Yann pour son émission. Il a un fichier MP3 et un fichier AAC, donc le AAC qui va dans iTunes et le MP3 pour d'autres accès. Et bon, ça demande quand même une quantité de travail supplémentaire qui n'est pas négligeable. Et accessoirement, c'est plus facile à faire sur Mac que sur PC parce que les logiciels Apple gèrent le AAC. Bref, tout un tas d'explications pour dire que, a priori, ce n'est pas prévu pour le moment. Peut-être plus tard, mais pour le moment, je ne pense pas mettre ça en place, malheureusement. Donc, je m'en excuse, mais ça n'est pas au programme. Voilà, William, désolé de te décevoir. J'espère que ça te... t'empêchera pas de... Dans la chatroom, on me dit feignasse. Écoutez, je suis désolé. Effectivement, j'avoue, je suis un petit peu feignasse. Voilà. Chose suivante, c'est iTunes avec un événement absolument invraisemblable. iTunes nous a mis en avant le rendez-vous tech dans la section podcast générale. C'est-à-dire qu'en ce moment, je sais pas combien de temps. Ah ouais, non. Tu l'as vu, Corben ou
Absolument pas, j'utilise pas D'accord. iTunes, mais la classe quand même.
Merci. C'est-à-dire que si vous allez dans iTunes et que vous allez dans l'iTunes Store, vous cliquez sur podcast, et ben il y a un lien vers le rendez-vous tech juste à côté de Alain Duhamel, le fait politique. Il y a le rendez-vous tech en gros mis en avant dans la section principale. Donc voilà, ça c'est Mathieu qui me l'a signalé, qui m'a montré ça et j'étais émerveillé. Bon, ce qui est clair, c'est que c'est un très grand honneur pour nous et on remercie iTunes de nous mettre en avant comme ça. Et ce qui est clair aussi, c'est que c'est pas juste parce qu'on fait une émission sympa, c'est que il y a aussi beaucoup de gens qui sont allés mettre des avis et des notations sur notre page iTunes. Donc c'est aussi grâce à vous qu'on a pu être mis en avant de cette manière. Donc je voulais vous remercier encore une fois, vous inviter à le faire si vous aimez l'émission. Si vous ne l'avez pas encore fait, donc vous allez sur la page iTunes de l'émission et puis vous laissez un petit avis et une petite notation. C'est comme ça que ça nous permet de rester en avant dans le répertoire qui est très important dans la communauté des podcasts pour avoir un petit peu de visibilité. Et je voulais lire les avis de deux personnes qui nous ont mis des avis depuis la dernière fois. On en est à 65 avis et 90 notations. Michel a dit une bande de copains très dans le vent de la techno, j'en redemande et pourtant mes 20 ans sont loin. Merci de mettre la techno à notre portée, nous les seniors. NB, sur vos conseils, je me suis inscrit chez Twitter. Pourquoi faire, je sais pas, mais au moins je suis dans le vent. Bah, Michel, bravo, tu es une des personnes qui est sur Twitter en France et tu verras. Au début, on comprend pas bien à quoi ça sert, mais au bout d'un moment, ça finit par venir. Et tu pourras dire, moi, quand déjà en 2009, grâce au rendez-vous tech, j'étais sur Twitter. Pollyanna nous dit un rendez-vous tech, mais surtout un rendez-vous fun. On se croirait autour d'une table à discuter, à blaguer avec des potes férus de techno. Un bon moment de détente et de culture technologique. Et là, je dis que Pollyanna a tout compris parce que c'est exactement ce qu'on essaie de faire. Et je vois qu'on y arrive et ça m'emplit d'une joie indicible puisque les auditeurs le comprennent. Donc merci à Michel et à Pollyanna de vos petits avis sur iTunes. Et évidemment, Corben et Eric, si vous avez envie de mettre des avis sur iTunes, n'hésitez pas. Voilà, c'est la fin de l'émission et je vais prendre deux secondes quand même pour parler de Corben et d'Eric et de ce que eux ils font sur Internet, parce qu'évidemment, ils sont sur le rendez-vous tech, mais ils ne font pas que ça. On va commencer par Corben. Où est-ce que les gens peuvent aller s'ils peuvent avoir un petit peu plus de corbenitude dans leur vie de tous les jours?
Corben.info, voilà, tout simplement.
Corben.info, le site d'info tech et geek, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
Et bien
et
moi,
puis, conneries en tout genre, ce que j'ai envie de dire, c'est un blog perso, hein, donc si demain j'ai envie de mettre une recette de macarons, eh ben, je la mettrai sans hésiter, voilà.
Bah moi en tout cas j'y vais tous les jours et ça me fait perdre pas mal de temps dans la journée et j'en remercie Corben largement. Il y a toujours un petit truc marrant à aller voir. Eric, ah mais pardon Corben, tu veux pas qu'on parle de ton Twitter ?
Oh bon, mon Twitter, c'est pareil. Hein. Si vous voulez perdre encore plus de temps dans la journée, twitter.com/Corben. De toute façon, moi, c'est simple. Hein. C'est tout le temps la même chose. Voilà. Et en fait, tout ce que je ne publie pas sur mon site, sur mon blog et que je vois passer, qui peut être parfois un peu décalé, marrant, des vidéos principalement, où des conneries, des articles, la politique, un peu de tout, je le balance sur Twitter. En fait, c'est un peu ma poubelle à actu que je peux pas, on va dire, mettre sur le site pour garder une certaine ligne éditoriale. Voilà.
Twitter, la poubelle à actu. Ça pourrait être le titre de l'émission, ça. Je crois pas, mais ça pourrait. Donc Corben, K-O-R-B-E-N. Eric, où les gens peuvent-ils aller pour découvrir les merveilles que tu mets sur Internet?
Sur mon blog perso aussi et principal qui s'appelle pressecitron.net, donc presse-citron.net, et également sur mon compte Twitter qui s'appelle twitter.com/pressecitron en un seul tenant sans tiret. Et puis éventuellement sur un autre site que j'édite qui s'appelle fuzz.fr.
Et ben voilà, tout est dit. Juste rapidement, on peut y trouver quoi sur Presse Citron exactement, pour donner un petit peu envie aux gens?
Oui, Presse Citron, c'est un blog d'actualité high-tech et sur les tendances du web, des médias sociaux, des réseaux sociaux, et puis effectivement aussi des sujets plus personnels et pas mal de sujets qui sont toujours liés de près ou de loin à Internet, mais qui peuvent être étendus notamment à la musique, au design, à l'architecture de temps en temps, au cinéma.
Et voilà, bah moi ça me fait très plaisir de vous avoir eu tous les deux dans l'émission ensemble, d'une part parce que vous connaissez et que vous êtes potes, donc c'est marrant de vous avoir tous les deux, et aussi parce que vous faites partie des blogs que je vais consulter tous les jours, donc ça me fait une sorte d'honneur ému de vous avoir avec moi, chez moi, dans ma petite maison sur Internet.
C'est beau.
Donc le site du rendez-vous tech c'est lrdv.fr, évidemment l'email c'est tech@frenchspin.com, tout ça est sur le site bien sûr. La prochaine émission ça sera dans 2 semaines, le lundi, attendez que je dise pas de bêtises, lundi 11 à 10h du soir heure de Paris comme toujours, ça sera diffusé en direct sur internet ou disponible en podcast après, évidemment. On vous remercie d'être venu nous voir, on remercie la chatroom et puis on vous dit à dans 2 semaines. Ciao à tous, dites au revoir.
Ah, faut dire au revoir. Bon bah ciao.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.